This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هذا بروبلي.
From CNN Radio 7.
من راديو داجا.
O Brasil quer se
vingar. Turquia fatora. Slava Russia.
Bonsoir, un jour dans le monde au programme la GPA, la gestation pour autrui, une activité prospère à travers le monde avec ses réseaux, ses cliniques et du chiffre d'affaires, notamment en Inde. Il y a tout juste 10 ans, le tsunami qui a touché 14 pays de l'océan Indien, 230 000 morts. Nous irons en Indonésie, dans un village entièrement reconstruit près de Banda Aceh, sur l'île de Sumatra. Mais d'abord, la guerre sur Internet à cause d'un film.
France Inter. Un jour dans le monde, Pierre Veil.
Vous entrez dans le pays le plus dangereux du monde. Les Coréens du Nord croient tout ce que leur raconte Kim Jong-un, comme par exemple qu'il peut parler aux dauphins et qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes.
Voilà un extrait de la bande-annonce de la comédie, le film L'Interview qui tue, qui raconte un complot pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce film est finalement visible dans quelques centaines de salles obscures aux États-Unis et sur plusieurs plateformes Internet. Que de rebondissements ces derniers jours. Piratage informatique géant mené contre Sony, le producteur du film. Des pirates informatiques qui profèrent des menaces d'attentat aux USA. Sony retire le film. Mauvaise décision, erreur, dit Barack Obama. Le FBI affirme que la Corée du Nord a mené l'attaque informatique contre Sony. Obama promet une réponse à ce qu'il appelle du cyber-vandalisme. Comme par hasard, la Corée du Nord est privée d'Internet pendant près de 10 heures. Finalement, Sony refuse l'autocensure et sort le film. Alors, dans cette affaire, a-t-on vécu la cyberguerre ? Avec nous, dans les studios de France Bleu Armorique à Rennes, Nicolas Arpagian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur scientifique du cycle Sécurité numérique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Vous avez publié La cybersécurité, un que sais-je, aux presses universitaires de France. Alors d'abord, Sony Pictures aux États-Unis a subi un gigantesque piratage informatique. On est quand même surpris. Comment une multinationale peut-elle être aussi fragile, vulnérable ?
Alors, une entreprise, quelle que soit sa taille, dépend de plus en plus des technologies de l'information. D'une part, pour son organisation, son fonctionnement interne quotidien, mais également pour sa production, son activité. Dans le cas de l'enquête, enfin en tout cas de l'attaque concernant Sony Pictures, c'est une attaque symbolique. Pourquoi ? Parce qu'elle concerne l'ensemble des aspects de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire d'une part, ses systèmes de paiement, sa comptabilité avec un certain nombre de révélations de références de comptes bancaires, également les références de ses emails internes, c'est-à-dire de ses systèmes de messagerie. Mais également, plus grave certainement sur la durée, ça hypothèque sa capacité à gagner de l'argent dans les mois à venir.
Pourquoi ? Mais elle n'avait pas prévu ce genre d'attaque, une multinationale aussi importante ?
C'est très difficile de le prévoir parce qu'en fait, les modes d'attaque sont extrêmement variés. Par exemple, si le mode de contamination de l'informatique, de la structure informatique de Sony a été notamment fait par une pièce jointe, vous savez, ces fameux fichiers PDF, ces fichiers que l'on adresse dans des emails, qui a été un salarié, a légitimement cliqué, pensant bien faire sur la pièce jointe que lui a envoyé un correspondant qui lui semblait crédible, ça suffit à rentrer dans le système, à contaminer l'ensemble de l'informatique de l'entreprise.
Donc, finalement, c'est quasiment imparable ce genre
L'ambition qu'il faut avoir, c'est en tout cas de ne pas être pénalisé pendant longtemps. C'est-à-dire que savoir détecter le plus tôt possible en amont une fois que vous avez fait l'objet d'une attaque. En clair, faute de pouvoir l'empêcher, il va falloir d'une part repérer le plus vite possible l'attaque et ensuite réduire son impact. Et en fait, en quelque sorte, comme disent les psychiatres avec la résilience, revenir à une situation normale dans les plus brefs délais de manière à limiter l'impact largement économique, essentiellement financier.
Alors voilà pour les multinationales. Maintenant, si on se place au niveau des États, est-ce qu'une attaque informatique peut paralyser le fonctionnement essentiel d'un État ? Est-ce qu'une attaque informatique pourrait paralyser, détruire les systèmes, les serveurs gérant les services publics essentiels d'un pays ?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il faut garder à l'esprit que souvent, l'informatique des entreprises, des organisations publiques, système de traitement des eaux, système électrique, système bancaire, historiquement, n'ont pas été construits avec une culture de sécurité. sécurité, c'est-à-dire qu'on a cherché à faire éventuellement ce qui était le plus rapide, le plus efficace, éventuellement le moins cher. Et donc, effectivement, ce n'est qu'assez récemment au final qu'on commence à se préoccuper de sécurité, et c'est toujours plus compliqué de mettre de la sécurité sur des infrastructures existantes plutôt que d'intégrer dès l'origine des solutions de sécurité robustes. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un pan de notre activité humaine, surtout dans nos économies occidentales, dans nos États occidentaux, qui ne soit pas géré, piloté, régulé par l'informatique. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet de préoccupation aujourd'hui pour les États et les entreprises.
Donc, vous êtes formel, on est vulnérable dans ce domaine. Pour l'instant, il y a des insuffisances.
Non, alors, les insuffisances, c'est-à-dire que, faute de pouvoir empêcher les attaques, il faut essayer d'en limiter l'impact. Ça suppose d'avoir des capacités d'audit permanentes, comme si, un peu, si vous étiez un patient et que vous alliez vous palper, vous ausculter de manière régulière pour repérer les comportements anormaux. Par exemple, lorsque les fichiers de films ont été piratés chez Sony Pictures, il a bien fallu que quelqu'un rentre dans les systèmes où sont hébergés ces fichiers et fasse sortir ces fichiers. Donc ça suppose qu'à un moment, soit ils ont été par exemple fractionnés de manière à les rendre plus anonymes et plus moins visibles sur les systèmes de sécurité, mais il faut être plus vigilant sur la protection, faute de pouvoir empêcher toute forme d'attaque.
Nicolas Arpajon, je rappelle, vous êtes directeur scientifique du cycle sécurité numérique de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Pour faire la cyberguerre, faut-il de gros moyens financiers ou alors tout simplement, disons, quelques génies informatiques, des hackers de génie?
Alors, tout dépend si on bénéficie également de complicité en interne. Alors, de complicité, ça veut dire que si quelqu'un clique de manière involontaire sur une pièce jointe, ce qui aura été contaminé, ou au contraire, si vous avez le cas d'anciens salariés, de prestataires mécontents, oui, qui peuvent éventuellement ouvrir la porte, un peu si on faisait l'analogie avec une maison, quelqu'un qui ferait en sorte de laisser ouvert la porte de l'arrière, la porte du jardin, de manière à faciliter l'arrivée de cambrioleurs. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tous les États, tous les grands États, ont investi des moyens conséquents dans la lutte, ce qu'on appelle la lutte informatique offensive. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que c'est un moyen de porter des coups à un adversaire sans éventuellement avoir à subir la responsabilité juridique. Vous l'avez dit dans le cas de la Corée du Nord, peut-être que M. Obama a dit, voilà, ça paraîtrait naturel suite au film en question, que ce soit la Corée du Nord. Il reste ensuite à le prouver. Donc, on est dans un univers de droit. Dans l'univers de droit, il faut prouver ce que vos affirmations, d'un point de vue technique et de manière à être irréfutable et à être certain qu'il s'agit de la Corée du Nord, c'est une autre affaire.
Donc ça veut dire qu'au ministère de la Défense à Washington, au ministère de la Défense à Paris, à Londres, il y a des spécialistes de la cyberguerre, des gens qui sont prêts à lancer des offensives informatiques.
Certainement, nous avons à l'état-major des armées en France un officier général qui est un vice-amiral en charge de la cyberdéfense et qui dont le rôle est de coordonner justement les actions tant de protection, les actions de défense dans le domaine de la cyber. C'est un territoire à part entière, au même titre que l'air, la terre, la mer. Le cyberespace est devenu un espace d'affrontement. La seule chose, c'est que des États s'affrontent, des entreprises sont à la manœuvre, mais également des collectifs, des activistes, des militants, et même dans certains cas, puisqu'on le voit dans des contentieux, même intrafamiliaux, quelquefois même des contentieux en France qui arrivent dans des gens qui dans d'autres temps se seraient envoyés des lettres anonymes ou se seraient crevé les pneus de leur voiture réciproque, là vont mener des opérations sur Internet pour justement porter atteinte à la réputation d'un tel, ou on l'a même vu avec des étudiants qui menaient des attaques informatiques à l'encontre de leur université pour faire en sorte de modifier leur note finale à l'examen.
Donc vous nous dites qu'aujourd'hui un pays qui veut se défendre doit avoir des armes conventionnelles, des avions, des armes nucléaires pour certains, et donc aussi des armées d'experts informatiques. Mais alors, l'armement électronique et numérique, ça ressemble à quoi ?
Alors, ça ressemble déjà à un savoir-faire en termes d'outils d'attaque, c'est-à-dire être capable de connaître les systèmes informatiques et équipes sa cible de manière à en identifier les failles. Par contre, c'est là où les Américains ont un avantage par rapport aux autres grands pays, c'est qu'ils disposent en soutien de l'activité de grands groupes industriels, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit IBM, qui sont des partenaires de la sécurité nationale des États-Unis. Lorsque Marissa Mayer, la présidente de Yahoo, a clairement dit lors d'une conférence « Si je ne respecte pas la loi américaine, c'est de la trahison », effectivement, c'est là où on s'aperçoit que là, par exemple, un pays comme la France, qui avait l'habitude d'avoir des industries dans le domaine naval, dans le domaine aérien, dans le domaine de l'armement, effectivement, doit maintenant réorganiser, consolider ses forces dans le domaine cybernétique, parce que ce n'est pas une industrie dans laquelle, pour l'instant, elle détient le même niveau d'excellence que pour l'aviation opérations militaires ou la défense navale ou sous-marine.
Aujourd'hui encore, on a appris que les serveurs des consoles Xbox et PlayStation ont été perturbés. Peut-être, là encore,
Certainement une attaque informatique, mais là on est davantage vraisemblablement dans une attaque crapuleuse. Pourquoi ? Parce que ce sont des sites marchands. En l'occurrence, l'attaque qui a été intervenue, c'est ce qu'on appelle une attaque en déni de service, c'est-à-dire en fait, vous saturez le site internet de votre cible par un grand nombre de connexions simultanées à partir d'ordinateurs détenus légitimement par leur propriétaire, mais qui ont été contaminés à leur insu. Et donc là, l'idée, c'est souvent une opération de racket ou d'extorsion où vous dites à un marchand, à un cybermarchand, voilà, on va être en période de Noël, je vais bloquer vos sites si vous ne payez pas une rançon, si vous ne payez pas une certaine somme d'argent. Là, en l'occurrence, on est moins dans la démarche politique ou militaire, on est davantage dans une opération de criminalité.
Est-ce qu'il existe des mercenaires de la cyberguerre, des pirates autonomes qui travaillent parfois au service d'État ?
Certainement. En fait, vous louez des services. Vous louez, même pour des particuliers, vous pouvez louer, vous avez des plateformes de ce qu'on appelle donc des botnets, des réseaux d'ordinateurs zombies, et vous louez ponctuellement pour un usage unique ou temporaire. En fait, en général, c'est vous allez identifier la cible informatique et vous allez commander, préciser la durée de l'attaque que vous souhaitez, la durée d'empêchement par exemple, de fonctionnement d'un site marchand et vous allez payer de manière ponctuelle cette prestation de service.
En conclusion, Nicolas Arpagian, on peut dire que la cyberguerre, la guerre par l'informatique, par le net, c'est un nouvel aspect de la défense, peut-être dans lequel, on vous a entendu, on est encore dans certains pays vulnérables. Il y a des progrès à faire, des enseignements à tirer de ce qui s'est passé là, dans cette affaire avec Sony et la Corée du Nord.
Alors là, on est un peu dans une situation particulière puisque c'est une entreprise. Donc dans une guerre, en principe, ce sont des États qui s'attaquent. Là, vous voyez bien qu'il y a une logique asymétrique puisque c'est une entreprise commerciale. Et d'ailleurs, quand M. Obama s'en est plaint, la question va se dire maintenant que le film est diffusé, puisque c'était une demande qu'avaient les commanditaires de dire « nous ne souhaitons pas que le film soit diffusé ». On verra maintenant si l'entreprise Sony va faire l'objet dorénavant dans les jours à venir d'attaques supplémentaires puisqu'elle aurait en quelque sorte désobéi à la demande qui lui avait été faite par ses racketteurs informatiques.
Merci Nicolas Arpagian d'avoir été en direct avec nous dans Un jour dans le monde, dans les studios de nos amis de France Bleu Armorique à Rennes, que je remercie. Il est 18h27. Dans quelques minutes, on va parler d'un business qui marche bien, la gestation pour autrui, la GPA. Mais d'abord, une des grandes stars de la chanson anglaise d'origine indienne, Sushila Raman. Voici Maya, un de ses titres les plus connus.
Whispers to me, yeah. My.
Voilà, Sushila Raman, l'Orient mouvant, électrique, c'était Maya.
Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Inde est une grande nation émergente.
Pendant 9 mois, ce sont des Indiennes qui auront dans leur ventre un enfant voulu par d'autres.
Ce mois-ci, le Conseil d'État a reconnu le droit à la nationalité française pour les enfants nés à l'étranger par mère porteuse. On revient ce soir sur cette pratique des mères porteuses, interdite en France, mais qui se développe à l'étranger, une activité en pleine expansion, un commerce florissant avec organisation, réseau, chiffre d'affaires. Muriel Fabre-Magnan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous connaissez bien ce dossier de la GPA, son aspect juridique, éthique. Vous avez publié chez Fayard en 2013 « La gestation pour autrui, fiction et réalité ». D'abord, la GPA, quels sont les pays qui l'autorisent dans le monde et sous quelles conditions ?
Alors c'est assez variable dans le monde, c'est surtout pratiqué, je vais dire, en Inde précisément, en Ukraine, mais c'est également réglementé dans des pays plus proches de nous, comme le Royaume-Uni, la Grèce, c'est les deux principaux pays européens où c'est réglementé. Mais à nouveau, le marché tel qu'on le connaît, qui explose avec l'exploitation des femmes, c'est en Inde, en Ukraine, dans les pays du Sud, si je puis dire.
Alors, l'encadrement juridique de la GPA dans certains pays, c'est très différent.
C'est extrêmement différent, puisque dans certains pays, ça se fait sans que ce soit réglementé. Donc, vous imaginez, c'est la porte ouverte à toutes sortes de pratiques. Et de toute façon, même les pays comme en Inde, où il y a des tentatives de réglementation, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a précisément la pression du marché. La commission des lois en Inde a parlé de mine d'or. C'est un marché qui est en expansion de près de 20% ou 25% par an. Donc, c'est très difficile à réglementer.
Alors on cite, vous l'avez cité souvent, l'Inde comme usine à bébés avec des centaines et des centaines de cliniques. Comment ça se passe là-bas ?
Alors en Inde, je vous dis, c'est un véritable marché qui est très organisé. Dans les villages, il y a des intermédiaires qui vont voir. Alors les hommes, parce qu'il faut savoir que les femmes dans cette pratique n'ont pas grand-chose à dire. D'ailleurs, c'est souvent, on touche des femmes dans des milieux très très pauvres, analphabètes. Et il y a des intermédiaires dans les villages qui vont voir les maris pour essayer de convaincre leurs épouses de faire cette assistance à la procréation pendant 9 mois. Donc on va dans ces villages, ce sont les époux qui vont rencontrer les directrices des cliniques, ce sont ces intermédiaires qui négocient et les femmes n'ont absolument pas leur mot à dire, elles viennent, elles comprennent ou ne comprennent pas ce qui se passe. Donc c'est venu, je vous dis, un marché avec intermédiaires, exploitation. Les cliniques tentent de réglementer parce qu'elles voient bien qu'il faut essayer de protéger ces femmes. Mais je vous dis, c'est très difficile. Alors ce qui est intéressant sur l'Inde, c'est que les médias en parlent de façon très différente de ce qu'on peut entendre et voir en France.
C'est-à-dire ?
Parce qu'en Inde, ils ont essayé plusieurs fois de réglementer. Ils n'ont jamais réussi. Pour l'instant, il n'y a que des recommandations qui ont été faites par le Conseil indien de la recherche médicale, qui date les dernières de 2010, ça a été un petit peu mis à jour. Et ils essayent d'en faire une loi pour protéger ces femmes, parce qu'à nouveau, on a beaucoup plus conscience là-bas et dans les médias et partout qu'il faut protéger absolument ces femmes. Le Premier ministre et le gouvernement essayent de transformer ces recommandations en une loi, mais ils ont les pressions et les oppositions des féministes, parce qu'à nouveau, je vous dis, c'est vraiment de l'exploitation des femmes, qu'on ne se cache pas derrière son petit doigt, c'est les femmes, c'est les capacités reproductives des femmes. Donc il y a une très grande opposition des féministes, de ceux aussi qui se battent pour les pauvres, parce qu'à nouveau, c'est des femmes extrêmement pauvres. Vous faisiez allusion au salaire. Je vous rappelle que le salaire moyen en Inde est d'à peine une centaine d'euros. Ça veut dire que la plupart gagnent une dizaine d'euros par mois, quelques dizaines d'euros par mois. Vous imaginez quand on vient leur proposer 8 ou 9 000 euros. Il y avait un film, je crois, qui s'appelait « Proposition indécente ». Un film américain où on proposait à un couple dans la détresse de $1 million pour coucher avec Robert Redford. Vous proposez, c'est une proposition indécente, c'est une proposition qui est telle que la personne à qui vous la faites se soumet volontairement, de son plein gré. On va parler de consentement, mais qu'est-ce que c'est que le consentement quand une femme, vous lui proposez 10 années ou 15 années de salaire ? Imaginez le nombre de femmes qui seraient consentantes en France si on leur proposait, je ne sais pas, 800 000 euros. Vous imaginez bien que dans l'état de misère, d'ailleurs un des pays, vous me demandiez où est-ce que c'est réglementé, en Grèce c'est réglementé, et ça explose absolument. Faisons le lien. C'est pour ça que je pense que cet argument de dire c'est des femmes qu'on sort de la misère, c'est indécent ou obscène. Je vous dis, c'est les seuls qualificatifs qui me viennent. C'est une façon d'admettre, d'accepter ce monde à deux vitesses qu'on est en train de... Et quand je dis deux, c'est plutôt plus. C'est des soins palliatifs, si vous voulez. On fait de manière économique, on détruit les économies, on plonge les gens dans la misère et dans le désarroi comme en Grèce. Et après, on dit, bah, c'est bien, on va leur trouver une nouvelle façon de sortir de la misère. C'est obscène.
Mais vous dites qu'en Inde, le gouvernement tente de mieux protéger ces femmes avec de nouvelles lois. De quelle façon ?
Alors, en essayant de, par exemple, de limiter le nombre de grossesses, parce qu'actuellement, dans ce code de bonne pratique, mais qui à nouveau est lettre morte, c'est-à-dire il est violé dans plein de dispositions, mais essayer de limiter le nombre de grossesses, parce qu'il y a certaines femmes, elles le font 5 fois, 6 fois. On leur implante 3-4 embryons dans le ventre.
Mais comment ça se passe une fois que l'implantation est faite, le déroulement de cette grossesse, ces 9 mois, ça se passe où et comment ?
Alors en général, comme c'est très mal vu encore en Inde, il y a un sentiment de honte, parce qu'à nouveau, quand on entend ici que ce serait un travail comme un autre, ces femmes-là savent que ce n'est pas un travail comme un autre, elles en ont honte, et donc il y a tous des stratagèmes pour pouvoir quitter le domicile conjugal pendant quelques mois, sans qu'on aille s'interroger sur ce qu'elles ont fait, parce qu'à nouveau, c'est infamant de recourir à ça. Donc elles prétendent qu'elles vont faire des travaux chez leurs parents, qu'elles se sont fâchées avec leur mari, et elles sont mises dans ces cliniques dont on voit plein de reportages sur Internet. Je vous conseille par exemple, je ne sais pas, Google Baby, un documentaire israélien qui a été fait, magnifique, où on voit absolument dans quelles conditions ça se passe. Et donc elles sont parquées pendant 9 mois, parce qu'en plus, comme je vous dis, c'est des femmes extrêmement pauvres. Si elles rentraient chez elles, elles se nourrissent mal, elles continuent à travailler, et ça mettait en danger les bébés. Donc maintenant, on les laisse dans les cliniques, elles sont 10 par chambre, c'est des cliniques qui sont construites exprès avec des centaines de femmes. Par exemple, la petite ville qu'on voit toujours à Nantes dans le Gujarat, cette fameuse clinique du docteur Patel, qui d'ailleurs est une vitrine parce que les conditions sont merveilleuses, enfin entre guillemets, avec 10 000 paires de guillemets par rapport aux autres cliniques. Mais on les garde et il y a des centaines de femmes dans ces cliniques construites exprès pour ça.
Dans une enquête parue dans La Croix, mi-décembre, la responsable indienne d'une clinique où l'on pratique la GPA, elle dit: je fais ce métier pour aider les gens, nous apportons du bonheur aux parents et nous sortons des femmes du caniveau. Est-ce que c'est la réalité ?
Cet argument, il est irrecevable. Si vous voulez, à ce moment-là, les gens pourraient se faire de l'esclavage. Pourquoi est-ce qu'on refuse ces domestiques qui sont esclavagisés si ça le permettait de les sortir de la misère et gagner 10 ans de salaire ? Je vous dis, c'est ce que j'appelle le syndrome, enfin ce qu'on peut appeler, c'est une phrase courante, le syndrome de la ligne Maginot. C'est-à-dire que quand on est dessus, on n'a plus le recul suffisant pour voir l'exploitation. C'est des nouvelles formes d'esclavage. Traditionnellement, on avait besoin surtout de la force de travail. Dans le monde d'aujourd'hui, la nouvelle richesse, c'est le matériau biologique, c'est les capacités reproductives. Et si vous prenez au sérieux les dernières définitions qui sont excellentes d'une loi de août 2013 qui a modifié la définition de l'esclavage et de la traite, par exemple, on a rajouté, d'habitude, c'était la traite pour se livrer à des activités sexuelles, etc. On a rajouté pour le prélèvement d'un des organes. Parce que précisément, en Inde d'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de kidnappings de personnes qui se réveillent ensuite avec un rein en moins. Donc c'est des nouvelles formes d'esclavage et de traite. Ça rentre dans la définition moderne de l'esclavage, qui est le fait d'utiliser le corps d'une personne comme on utiliserait une chose. Donc regardons, et si vous voulez, l'avantage de l'analyse juridique, c'est qu'elle permet de garder une certaine objectivité et de voir dans quel cas qualification juridique ça entre. Et je vous dis que juridiquement, la gestation pour autrui entre dans la qualification d'esclavage et de traite.
Aux États-Unis, où on pratique la GPA, certaines mères porteuses répugnent à parler d'argent, mais elles évoquent le don de soi, l'aide aux autres, le bonheur d'être enceinte, la joie de pouvoir combler, rendre heureuse une femme stérile.
Alors d'abord, il faudrait là interroger des anthropologues pour voir pourquoi maintenant, de nos jours, le don permet de tout nettoyer, de tout valider. On se croirait dans un monde irénique. Enfin, lisez Marcel Mauss, le don, le contre-don, la violence du don, les liens de dépendance que ça fait. Et à nouveau, il ne faut pas écouter uniquement les discours. Pour ma part, aux États-Unis, et j'en prends de très nombreux exemples dans mon livre, j'ai analysé les contrats, même aux États-Unis. Donc, je ne vous parle pas des contrats en Inde avec des clauses d'une violence incroyable. Mais même aux États-Unis...
Clauses de violence incroyable, par exemple.
Bah, des clauses, par exemple, selon lesquelles si on peut forcer la mère porteuse à avorter. Mais que fait-on de la liberté de l'avortement ? Vous vous rendez compte ce que c'est que forcer une femme à avorter, sinon elle perd toute rémunération ? Des clauses de violation de la vie privée, des clauses qui violent la liberté sexuelle. Elles n'ont plus le droit d'avoir des relations sexuelles avec leurs époux le temps de l'insémination. Donc, si vous voulez, on balaye. Mais c'est pour ça que je vous dis que le regard du juriste qu'on voit balayer tous ces droits de l'homme les plus fondamentaux, le respect de la vie privée, le secret médical, vous imaginez bien que le dossier médical, et même aux États-Unis, vous m'interrogez sur les États-Unis, il n'y a aucun secret médical. Tout le dossier médical est dans les mains de couples qui souhaitent commander ces bébés.
Bientôt la fin de cet entretien. Muriel Fabre-Magnan, est-ce qu'il y a de nombreux réseaux clandestins qui fonctionnent dans des pays où la GPA est interdite ?
Oui, de fait, dans de très nombreux pays, à nouveau même en Inde, je vous parlais de cette réglementation qui pose certaines limites et qui sont violées. Par exemple, en Inde, soi-disant dans ces réglementations, on dit qu'on ne peut faire cette activité que pour des couples dont les pays accepteront de recevoir les enfants, ce qui n'est pas le cas de la France, et pourtant des couples français y vont. Mais en deux mots, j'insiste sur cette histoire de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a un débat actuellement pour valider les gestations pour autrui faites notamment en Inde, c'est-à-dire transcrire la filiation de ces enfants à l'état civil français. Et il faut bien comprendre d'abord que la Cour européenne des droits de l'homme ne nous dicte pas la façon dont nous devons donner un statut à ces enfants. Donc notre statut n'est pas conforme aux droits de l'homme, mais nous avons une marge d'appréciation et nous ne sommes pas obligés de valider ces filiations. Et comprenons bien que si nous régularisons les filiations faites dans les conditions que vous venez de décrire et que nous venons de décrire, là, la France, je vous dis, s'embarque dans des... Elle nie les textes qu'elle a signés sur l'esclavage, sur la traite.
Oui, merci Muriel Fabre-Magnan, professeure de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je rappelle ce livre paru chez Fayard, La gestation pour autrui, fiction et réalité, 18h42.
Pierre Veille, Un jour dans le monde... sur France Inter.
C'était il y a tout juste 10 ans, un très fort séisme au large de Sumatra, conséquence une vague géante, un tsunami qui va toucher 14 pays de l'océan Indien, 230 000 morts. En Indonésie, pays le plus touché, 170 000 personnes vont perdre la vie. 10 ans après, notre reporter Sandy Dauphin est retourné sur place en Indonésie, dans la province de Banda Aceh. Là-bas, tout a été reconstruit grâce aux millions d'euros de l'aide internationale. Alors nous sommes à Lampung, un village de pêcheurs à quelques kilomètres de Banda Aceh. Reportage Sandy Dauphin et pour le son à ses côtés, Eric Audra.
Alfizar, on est à l'entrée de Lampung et il y a une espèce d'arche à l'entrée. Est-ce que vous pouvez nous lire ce qu'il y a écrit dessus ?
Perkampungan Bulan Sabit Merah Turki Lampung. C'est-à-dire, c'est un village qui a été construit par le Croix-Rouge de Turquie.
Est-ce que ça a beaucoup changé ici à Lampung ?
Oui, bien sûr. Cet village est complètement différent avec le village avant le tsunami. Et maintenant, le village est très moderne, avec la route est très bien. C'est complètement différent avec le village avant.
Le 26 décembre 2004, à Lampung, il ne reste plus que la mosquée plantée dans un paysage lunaire. Aujourd'hui, les rizières sont verdoyantes, la route refaite à neuf, les maisonnettes éparpillées dans une végétation dense. Pourtant, derrière ce décor, le tsunami a laissé des traces. Ramla tient une échoppe dans le village.
Elle a vu par derrière, la première vague est léger. Le deuxième a commencé, comme les gens ont dit, à peu près 15 mètres. Et puis, elle n'a pas pu sauver ses enfants et ses petits-enfants.
À Lampouk, avant la catastrophe, les habitants ne connaissaient pas le mot tsunami. Le sigle ONG non plus d'ailleurs. Depuis, la plupart des habitants ont bénéficié de l'aide des organisations non gouvernementales, notamment les pêcheurs.
Tous les pêcheurs qui ont victime de tsunami peuvent avoir en bateau. Grâce à l'ONG Trian, je peux vivre avec mon bateau. Puis je travaille comme le pêcheur.
Les ONG ont également construit des centaines de maisonnettes en béton en forme de maison de Monopoly. Une vingtaine reste vide, il n'y a pas de survivants pour y habiter ou bien les rescapés sont partis chercher du travail en ville. Nola vit sous un toit neuf avec ses deux enfants et son mari. Le village est plus joli qu'avant, dit-elle, mais l'ambiance a changé.
Il y a un changement de mentalité. Avant, les jeunes respectaient les anciens. Tout le monde s'entraidait, participait aux travaux publics, comme nettoyer la route ou le canal. Mais maintenant, il n'y a plus de personnes âgées pour donner des conseils et servir de guide. Maintenant, les étrangers qui se sont installés ici, quand ils demandent un coup de main, ils donnent de l'argent en échange.
Et c'est quoi le symbole qu'on voit devant ?
C'est le symbole du croissant rouge turc, mais il ressemble beaucoup à celui du GAM.
Le GAM, le mouvement indépendantiste de la province d'Aceh, c'est l'autre grand changement à Lampouk. Le tsunami a mis fin à près de 30 ans de conflit entre les rebelles et les forces gouvernementales. La province est désormais dirigée par un gouverneur du GAM, Moussakir Manaf, et le vice-gouverneur.
Grâce à tsunami, le processus de paix est bien plus vite que s'il n'y a pas de tsunami.
Vous êtes content qu'on ait mis fin à 26 années de guerre ?
Cet ex-GAM veut encore plus d'autonomie pour la province d'Aceh. En attendant, la paix est revenue à Lampouk et du coup, les touristes aussi sont de retour sur son immense plage de sable fin.
Je m'appelle Layla, je suis australienne et je suis mariée à un Indonésien d'Aceh. C'est un endroit très prisé par les surfeurs étrangers, mais il y a aussi beaucoup de gens du coin qui viennent ici le week-end. C'est vraiment chouette de les voir se balader librement aujourd'hui. Pour moi, c'est le plus grand changement depuis le tsunami, que la guerre soit finie et on voit que l'atmosphère est beaucoup plus détendue.
Ce qui a changé aussi sur cette plage de cartes postales, ce sont ces panneaux orange. Ils indiquent désormais les routes d'évacuation vers les collines en cas de tsunami.
Voilà, dans la province de Banda Aceh en Indonésie, reportage de Sandy Dauphin, Eric Audrin, mixage Alice Berger. Sur le site de France Inter, un dossier complet, l'Indonésie 10 ans après le tsunami, avec de nombreuses photos réalisées par Sandy dans cette province de Banda Aceh entièrement reconstruite. À écouter aussi le reportage de Sandy Dauphin diffusé le week-end dernier dans Interception sur France Inter de 9h à 10h. Vous allez sur le site de l'émission Interception. C'est le magazine de reportage de la rédaction d'Inter. Et la musique qu'on aime sur Inter, par exemple, Baxter Dury, Wintry Kisses. Sorry, kisses. Baxter Dury sur son dernier album qui a pour titre « It's a pleasure ». Dans Un jour dans le monde, la culture du monde qui vient à nous grâce à Isabelle Pasquier avec un voyage dans l'espace créé par l'artiste islando-danois Olafur Eliasson. C'est à la Fondation Vuitton à Paris. Alors son exposition qui s'intitule « Contact » nous met en effet en contact avec l'univers, avec le cosmos. Olafur Eliasson invite le visiteur à vivre une véritable expérience dans son installation. Isabelle Pasquier, vous l'avez testé pour nous.
Alors, première consigne, vous débranchez tout, portable et idées parasites, vous allez basculer dans une autre dimension. Olafur Eliasson est un artiste qui joue avec la lumière, avec l'espace. Il cherche à reproduire artistiquement ce que la nature a de plus magique. Il a créé des cascades gigantesques dans le port de New York. Il a inventé des arcs-en-ciel. Il avait même plongé la tête moderne de Londres dans des lumières d'apocalypse. Bref, il fait se télescoper art et science. Et pour y arriver, il travaille avec des scientifiques dans son atelier laboratoire à Berlin avec juste 85 personnes. Alors à la Fondation Vuitton, pour commencer, vous êtes invité à toucher une météorite. Elle est tombée au Chili, elle a juste 4 milliards d'années. Ça fait son petit effet. Olafur Eliasson nous demande de changer de tempo, d'éteindre son portable, effectivement. Mais lui, il est très pressé. Il commence l'interview en même temps qu'il envoie un texto à sa femme. Pas très cool, mais on fait avec. Et pour lui, cette météorite, ce n'est pas un gadget.
Cette impression cosmique que vous avez ressentie, c'est le fil conducteur de cette exposition, qui s'adresse à deux niveaux de notre esprit. Elle s'adresse à notre subconscient. Par exemple, quand on touche réellement une météorite, on touche non seulement quelque chose qui vient de notre espace infini, mais on touche aussi quelque chose que l'on ne peut pas imaginer. Le sentiment est très fort, mais on ne sait pas comment l'exprimer. Et donc, pour moi, ce sentiment cosmique touche à quelque chose qui est au-delà de l'imagination et au-delà de l'espace que nous connaissons.
Pourquoi cette météorite et pourquoi il faut la toucher au départ ?
Vous n'êtes pas obligé de toucher la météorite, mais je recommande d'essayer parce que c'est une occasion de tenir l'univers dans sa main, de tenir quelque chose qui vient d'en dehors de notre univers. Mais c'est aussi tenir quelque chose d'inaccessible. Et je pense qu'un musée peut permettre ça, nous connecter avec des choses avec lesquelles on ne pourrait pas être connecté dans notre société. Du coup, toucher cette météorite, c'est comme une métaphore. C'est comme toucher quelque chose de très éloigné, mais c'est peut-être aussi toucher quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, la météorite représente pour moi le potentiel que vous avez. Et j'aime cette idée romantique que, quand vous rentrez dans cette exposition, vous touchez l'intouchable.
Alors après la météorite, dans la pénombre, des sphères de verre nous montrent l'extérieur de la fondation, mais tout est à l'envers. Plus loin, on est comme sur Saturne, sur un sol bombé, entouré d'anneaux en néon orange, avec des jeux de miroirs qui vous donnent un léger vertige. On se sent tout petit, mais notre ombre est celle d'un géant. C'est une expérience aussi métaphysique que poétique, avec un artiste qui a juste un petit côté démiurge.
Merci Isabelle Pasquier, c'est bien, toucher l'intouchable. Contact d'Olafur Eliasson, c'est jusqu'au 16 février 2015 à la Fondation Vuitton à Paris. Comme tous les jours, en ce moment, en ces fêtes de fin d'année, un rendez-vous avec un grand reporter de la presse pour nous parler d'un événement qui a marqué l'année 2014. Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter à Libération 2014, un événement, un personnage ?
Oui, l'irruption sur la scène internationale de Aboubakr el-Baghdadi, l'homme qui dirige l'État islamique, l'homme qui a proclamé le califat, l'homme qui finalement fait rêver une large partie du monde, du Moyen-Orient, mais pas seulement, y compris dans les banlieues françaises. Donc il a une influence qui dépasse largement son pays d'origine, l'Irak, puisque finalement elle s'est tend à tout l'Orient, je l'ai dit, à l'Europe, voire aux États-Unis. Et même si on regarde le dernier attentat absolument terrible de Peshawar, les écoliers qui ont été tués par les talibans pakistanais, eh bien on peut penser que son influence a provoqué cette explosion absolument tragique.
Alors, El-Baghdadi, que sait-on de lui? C'est le nouveau Ben Laden?
Oui, alors c'est un Ben Laden qui est très différent du premier, même si évidemment l'idéologie est globalement la même. Entre les deux, si vous voulez, Ben Laden voulait créer un califat après avoir mis le chaos absolument partout dans le monde, dans une large partie du monde. La différence, Al-Baghdadi veut créer un califat maintenant, aujourd'hui, il l'a d'ailleurs créé, et puis ensuite, finalement, depuis ce califat, exporter le chaos. Vous voyez, la démarche est totalement inversée, mais c'est un personnage, malheureusement, réel, mais qui est passionnant, comme on a l'impression de lire un roman.
Quelle est son histoire? Alors, que sait-on de son histoire?
On sait très peu de choses. Pendant longtemps, on n'a même pas eu sa photo. On se contentait de la photo du FBI ou celle du ministère de l'Intérieur irakien. Donc, il est né dans le pays sunnite. On sait qu'il a été emprisonné, mais on ne sait pas exactement combien de temps. Certains parlent de mois, d'autres d'années, par l'armée américaine. Et puis ensuite, il prend en charge cette organisation qui va devenir l'État islamique. Et là, à la surprise générale, enfin, il faut dire qu'on ne comprend même pas pourquoi la CIA et d'autres organisations de renseignement ne l'ont pas détecté avant. Il va brutalement s'imposer sur la scène irakienne, la scène syrienne. Et finalement, il est prononcé ce califat et donc apparaître enfin en plein jour, en juin dernier, dans une grande mosquée de Mossoul.
Mais alors Jean-Pierre Perrin, comment on peut expliquer que cet homme, El-Baghdadi, a réussi à s'imposer et comment il fonctionne, comment il dirige ses adorateurs, si je puis dire, tous ces terroristes?
Alors, il n'y a jamais une seule explication, hein. C'est un faisceau d'explications. Il y a évidemment la situation dramatique dans laquelle se trouve l'Irak, qui a complètement implosé après l'invasion américaine. Il y a ce ressentiment sunnite extrêmement fort face à la montée du chiisme. Il se voit un petit peu comme les perdants de toutes les batailles de la modernité. Il y a d'autres facteurs. Il y a une radicalité islamique qui est à l'œuvre dans le monde depuis les années 2000. Donc, on a tous ces facteurs qui entrent, qui se rejoignent et qui créent finalement, font émerger le personnage. Mais Al-Baghdadi, c'est quand même, on va avoir affaire à lui, même s'il est tué, il aura un remplaçant. Hein, je crois qu'on va avoir affaire à une sorte de phénomène comparable à ce que fut, à mon avis, l'Allemagne nazie, le nazisme, le fascisme dans les années 30. On a un phénomène comparable. Je crois que malheureusement, on va devoir parler d'Al-Baghdadi pendant longtemps encore.
Et vous pensez qu'actuellement, El-Baghdadi, c'est une cible privilégiée pour les Américains, que l'armée américaine intervient là-bas, elle travaille chaque jour pour essayer de le localiser le tuer?
J'imagine, évidemment, on n'est pas dans le secret des états-majors. Ouais. Simplement, je remarque un point. On est à l'époque d'une fraternité colossale, pour reprendre les mots d'un philosophe. On a eu les fraternités colossales qui étaient fondées sur la race, c'était le nazisme. On a eu les fraternités colossales qui ont été fondées sur le parti, ça a été le stalinisme et le goulag. Et aujourd'hui, on a une fraternité colossale qui est fondée sur la religion. C'est l'islamisme tel que le voit Al-Baghdadi.
Merci Jean-Pierre Perrin. Un jour dans le monde était réalisé par Joseph Caraballona, avec à la technique ce soir Jean-Noël Vélan et Jonathan Kietza. L'émission a été préparée par Sarah Masson. Un jour dans le monde lundi avec Éric Valmire, émission spéciale consacrée à l'Afghanistan, puisque ce sera le retrait des dernières troupes de l'OTAN d'Afghanistan. Et après le journal de 19h ce soir, bien sûr, comme tous les vendredis, Secret d'Info présenté par Mathieu Aron.